Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 29 mai. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Le journal des sports et comme chaque jeudi, le journal de l'économie. Et au sommaire du journal de ce jeudi 29 mai, environ 3500 personnes restent isolées le long de la côte centre-nord de la Nouvelle-Galles du Sud après les inondations, malgré le retrait des eaux ces derniers jours. La chef de l'opposition fédérale, Susan Lee, a annoncé la composition de son cabinet fantôme suite à la réconciliation des partis libéral et national pour former à nouveau une coalition. Les groupes environnementaux ont exprimé leur indignation face à l'approbation par le gouvernement de la prolongation du projet gazier controversé du géant des combustibles fossiles, Woodside. Cette autorisation permet à Woodside de prolonger la durée de vie du projet de 2030 à 2070, suscitant de vives inquiétudes chez les propriétaires traditionnels et les écologistes. Environ 3500 personnes restent isolées le long de la côte centre-nord de la Nouvelle-Galles du Sud après les inondations, malgré le retrait des eaux ces derniers jours. Colin Malone, commissaire adjoint du SIS de Nouvelle-Galles du Sud, indique que les opérations de réapprovisionnement se poursuivent pour ces communautés isolées, tandis que d'autres participent aux activités de nettoyage. Des fonds fédéraux ont été débloqués pour les communautés et les secteurs gravement touchés. La ministre fédérale des services d'urgence, Kirsty McBain, affirme que le rétablissement prendra du temps. La chef de l'opposition fédérale, Susan Lee, a annoncé la composition de son cabinet fantôme suite à la réconciliation des partis libéral et national pour former à nouveau une coalition. Le cabinet comprend les libéraux de haut rang, Ted O'Brien, porte-parole du Trésor, James Patterson, porte-parole des finances, et Michaelia Cash, porte-parole des affaires étrangères. La sénatrice du Parti national, Bridget McKenzie, conserve le portefeuille des infrastructures et le chef adjoint du Parti national, Kevin Hogan, celui du commerce. Madame Lee souligne la diversité de son cabinet.
It includes those who've served in uniform, migrants, and the descendants of the oldest continuous culture on earth. There are those who've balance the books in small businesses, and those who've made tough calls in corporate boardrooms. Our team is one of strivers and optimists, of leaders and listeners.
La sénatrice libérale Jane Hume a été écartée du cabinet. Les anciens chefs du Parti national, Barnaby Joyce et Michael McCormack, ont également été exclus des premières places. Barnaby Joyce affirme accepter sa rétrogradation car cela fait partie de la politique. Mais il a déclaré sur Channel 9 qu'il entendait s'exprimer ouvertement sur son refus d'accepter les politiques qu'il juge inappropriées pour ses électeurs.
We're going to focus very much on getting rid of net zero. You can see the silhouette of those hills. We don't want them covered in swindle factories, wind towers, solar panels. We've got to make sure that we keep the power price right for pensioners. They're more worried about the power price than they are about a Paris agreement. So I'll look after the pensioners before I look after Paris.
Et Michael McCormack affirme respecter les décisions de David Littleproud, le leader. Il affirme que la scission de la coalition et les négociations qui ont suivi ont été mal gérée. Mais les questions subsistent concernant les politiques clés en matière de changement climatique avec la nomination de Dan Tehan comme porte-parole de l'opposition sur ces questions. Madame Lee a déclaré que la coalition examinerait désormais la politique énergétique dans son ensemble.
We'll have those discussions inside the policy development process. Everyone would agree, and colleagues particularly, that Dan Tehan is an excellent appointment in this space. Dan has been a valued colleague over many, many years.
Les groupes environnementaux ont exprimé leur indignation face à l'approbation par le gouvernement de la prolongation du projet gazier controversé du géant des combustibles Woodside. Cette autorisation permet à Woodside de prolonger la durée de vie du projet de 2030 à 2070, suscitant de vives inquiétudes chez les propriétaires traditionnels et les écologistes. De nombreux rapports ont été publiés détaillant les risques pour les gravures rupestres sacrées et anciennes, tandis qu'un autre rapport de l'Australia Institute affirme que l'expansion de Woodside est l'un des plus grands projets de développement de combustible fossile au monde et qu'elle augmentera considérablement les émissions de l'Australie. La PDG de Woodside, Meg O'Neill, affirme que l'entreprise est consciente de ces émissions.
And in fact, we're very proud of the work that we've done over the past few years to tackle emissions intensity at our operating facilities. So the team is very committed to it from top to bottom. We have programs of work to understand what changes we can make to the facilities to reduce emissions.
La pression monte pour une enquête indépendante après le décès d'un autochtone handicapé en garde à vue. La mort de cet homme de 24 ans fait l'objet d'une enquête menée par les autorités du territoire du Nord dans le cadre d'une enquête pour décès en garde à vue. Cependant, Amnesty International Australia a demandé que cette enquête soit menée indépendamment de la police du territoire du Nord afin de garantir son impartialité. L'homme de 24 ans est décédé après avoir été maîtrisé par deux policiers en civil qui l'auraient immobilisé après être intervenu sur un vol à l'étalage présumé dans le magasin. Le commissaire adjoint de police Travis Worth a déclaré aux journalistes que l'homme agissait de manière agressive et avait perdu connaissance après avoir été plaqué au sol par les policiers. La sénatrice Lydia Thorpe et les First Peoples Disability Network affirment toutefois que l'homme était handicapé, qu'il bénéficiait du NDIS et qu'il était sous tutelle. Le directeur général de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens affirme que le nouveau modèle d'aide à Gaza, soutenu par les États-Unis, détourne l'attention de ce qu'il appelle les atrocités israéliennes en cours dans l'enclave. Philippe Lazzarini affirme que le nouveau système israélo-américain ne respecte pas les principes humanitaires et est indigne, chaotique et dangereux. Il affirme qu'au moins 3 personnes ont été tuées et 47 blessées lorsque les forces israéliennes ont tiré sur des milliers de personnes faisant la queue pour recevoir de l'aide dans un nouveau centre de distribution. La porte-parole de l'UNICEF, Tess Ingram, a déclaré sur SBS que l'aide ne devrait pas être distribuée de cette manière.
Just having been in Gaza and been part of aid distribution that works, where vulnerable families get the aid in a dignified and principled manner, seeing this level of chaos and danger to civilians is heartbreaking. This is, to us, not how aid is done, and it's an inevitable consequence of what is simply an unworkable plan.
Les étudiants de l'université Harvard manifestent après l'annonce par le gouvernement américain de son intention d'annuler tous les contrats financiers restants avec l'université. Cette décision est la dernière tentative de Donald Trump pour contraindre l'administration universitaire à se soumettre à une surveillance et à une adhésion idéologique sans précédent. Et on craint que cette répression contre les universités américaines ne mette en péril des millions de dollars de financement de la recherche australienne. L'Académie australienne des sciences, principal partenaire de recherche des États-Unis, estime que jusqu'à 386 millions de dollars de financement de la recherche australienne sont menacés. Richard Holden, professeur à l'Université du Queensland, a toutefois déclaré au National Press Club que cette répression pourrait être l'occasion pour l'Australie de prendre les devants et de devenir un leader mondial de la recherche.
With the US stepping back from its leadership role, Australia has a chance to step up. In coming months and years, many leading US researchers may be looking to move their labs, their families, and their lives abroad. If we act decisively, Australia can be as or more attractive a destination for those researchers as Europe.
Le taux d'inflation est resté stable en Australie, contrairement aux attentes de nombreux économistes qui tablaient sur une hausse. L'indice mensuel des prix à la consommation est resté stable à 2,4% au cours de l'année, se terminant en avril. La forte hausse du prix des œufs a exercé une pression à la hausse sur l'inflation, mais celle-ci a été tempérée par la baisse des coûts de l'électricité. Le trésorier Jim Chalmers se réjouit de cette nouvelle.
It shows that the progress that we've made together as Australians on inflation has been substantial and it has been sustained. This is the ninth consecutive month where headline inflation's been in the target band and the fifth consecutive month that underlying inflation has been in the target band.
La première de l'État du Victoria, Jacinta Allen, a indiqué que l'interdiction du port de machettes pourrait être avancée. L'interdiction de la vente de ces armes étant entrée en vigueur depuis hier, le 28 mai, suite à une violente bagarre dans un centre commercial du nord de Melbourne, Madame Allen a avancé la date limite de septembre pour interdire la vente, mais n'a pas accéléré l'interdiction du port de cette arme. La première affirme désormais que l'interdiction du port pourrait être avancé si des conteneurs à déchets verrouillés dans 40 commissariats de police étaient prêts avant la date limite. Madame Allen se dit toujours ouverte à toute mesure améliorant la sécurité publique.
We're the first state in the nation to ban machetes, full stop. We're now the first state to ban the sale of machetes, recognizing that these dangerous weapons have to be taken off the shelves as quickly as possible to choke the supply of these dangerous weapons before the full machete ban comes into place.
Un nouveau rapport révèle que près de 2,9 milliards de dollars de produits invendus chez les détaillants sont jetés chaque année, tandis que plus de 1,5 milliard de dollars de retours d'achat en ligne sont jetés. Le rapport de Deloitte Access Economics pour l'association à but non lucratif Good 360 indique que c'est une augmentation de 17% depuis 2021. Alison Covington, directrice générale de Good 360 Australia, estime qu'une quantité croissante de stock est gaspillé en raison de la conjoncture économique, car la baisse des ventes signifie que davantage de produits restent en rayon et sont jetés. Elle affirme que ce gaspillage se produit malgré la demande des associations caritatives pour des vêtements, des articles ménagers, des produits d'hygiène et d'autres produits essentiels. On passe à la météo pour ce jeudi en Australie. Adélaïde, maximale de 19 degrés, Perth 22, Melbourne 16, Hobart 15, Canberra 17, Sydney 19, Brisbane 23, Darwin 30 et à Alice Springs, maximale de 15 degrés. Fin du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et je passe l'antenne à notre collègue Christophe Mallet pour le journal des sports.
Journal des sports, et on débute avec du cyclisme et le Giro d'Italia, le Tour d'Italie qui est toujours jusqu'à la fin de la semaine sur l'antenne de SBS Télévision, et la victoire du leader du maillot rose de ce Tour d'Italie, Isaac Del Toro, première victoire sur un grand tour. On écoute Isaac Del Toro.
I predict like with the team like something like this will happen, and of course you don't want to let go all the GC riders, and I went to them, I take it easy, I put a little bit of pressure on the other ones after the descent, And then I just tried to relax and recover because obviously it was hard stage to try to do the last kick in the last climb. We make this plan with the team and the team give me all the confidence to try full gas.
Donc c'était Isaac Del Toro, le leader de team UAE Emirates. Donc Isaac Del Toro aussi leader de ce Giro. Une mauvaise nouvelle par contre pour les Australiens sur cette 16e étape, l'abandon de Luke Plapp. Voici Matthew Keenan comme il l'a annoncé à l'antenne.
We got a message early in the stage from his coach, Nick Owen. He sent through the text message saying that Luke is sick and he is struggling today. And this is confirmation. But Luke Plapp leaves this year's Giro d'Italia with his career having stepped to the next level. A stage winner, he was close to being in position on another couple of stages. Luke Plapp will take a lot of confidence out of this year's Giro.
Matthew Keenan donc sur l'abandon de Luke Plapp. C'est vrai, un très beau tour d'Italie pour Luke Plapp, malgré donc cet abandon sur des problèmes de santé. Allez, on parle de tennis maintenant, et c'est les internationaux de Roland-Garros. Quelques belles victoires ces derniers jours. Hugo Humbert s'est qualifié pour le second tour. Il est plutôt content de sa performance, notamment puisque un de ses idoles était dans les tribunes, Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain.
Je savais pas du tout, et puis quand j'ai vu qu'il avait fait le tirage au sort, on m'a montré son interview où il disait que voilà, je faisais partie de ces joueurs qui l'appréciaient. Donc ça m'a touché, j'étais super content, c'est mon joueur préféré aussi de foot, et puis j'adore sa personnalité, j'adore comment il joue, et puis il fait une saison incroyable, il nous fait rêver, donc je suis super content. Et puis quand en fait je me suis pas rendu compte au début, il y a quelqu'un qui a crié à Ousmane, ramène-nous la Ligue des Champions, je lui ai dit ouais, il doit être là. Il est resté tout le match, et puis après du coup j'ai pu le rencontrer, il m'a donné son maillot. Donc celui-là, il est collector, je veux dire. Je l'ai laissé dans mon casier, là, j'ai mis le cadenas, j'ai tout fermé pour pas qu'on me le pique. Bien sûr, je vais souhaiter bonne chance pour la finale samedi, ça va être pas mal, je vais être devant la télé avec le maillot.
Hugo Humbert, donc sur la présence d'Ousmane Dembélé dans les tribunes pour le soutenir. Le football et le Paris Saint-Germain, on en reparle dans quelques instants. Mais un dernier mot de tennis également, une belle victoire sur le fil, une belle remontada comme il sait les faire. Gaël Monfils s'est qualifié pour le second tour, lui aussi de Roland-Garros. On écoute Gaël Monfils.
Je suis extrêmement content et encore plus de le faire à Roland-Garros. C'est pas forcément un scénario, comme je dis, au premier tour qu'on a envie d'avoir. Mais à partir du moment où on est dans ce scénario, il faut rester dedans, croire en soi, croire en ses chances, essayer de faire le maximum. Comme je dis assez souvent, c'est quand même magique ici, un public extraordinaire. Ça me transcende, honnêtement, ça me transcende. J'essaie de prendre toute cette énergie, toute cette belle amour, cette belle vibe. Et franchement, le public ici est juste exceptionnel. C'est quelque chose que, honnêtement, j'ai du mal à dire, mais honnêtement, c'est le rêve. Il m'a poussé vraiment du début à la fin, donc je suis... Hyper satisfait d'avoir pu refaire une remontada encore.
C'était donc Gaël Monfils sur cette belle victoire et la qualification au second tour. Un Français qui aura la tâche beaucoup plus dure, c'est Corentin Boutet. Il affrontera Novak Djokovic. On écoute le Serbe.
It was quite challenging conditions, I think, at the beginning of the match with the wind and rain and everything that was happening. So, you know, it took me some time to really find the rhythm on the court. With striking the ball and moving. But all in all, a solid match. You know, it's good. It can always be better, but I must be content and satisfied with the first round.
Novak Djokovic à Roland-Garros. Donc, allez, un mot de football maintenant. Je vous l'avais dit, on va parler de la Ligue des Champions, finale de la Ligue des Champions qui aura lieu ce samedi, vous le savez, entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. Un beau match au programme, on l'espère en tout cas. Et Mamadou Sakho, l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain et petit titi parisien, sera bien entendu à Munich.
Évidemment que j'y serai. Quand t'entends Paris, il y a Sakho qui va avec, non? Je sais que cette coupe-là, on va la ramener à la maison. Et j'espère que ça sera le 31 mai. Pour Paris, pour la capitale, pour le public, pour le stade, pour les joueurs, et le mérite. Le coach, restons focus. Et j'espère qu'à la fin des 97 minutes, 96 minutes, 125 minutes, pénalty, ce que tu veux. Voilà, faut juste qu'on fête ça sur les champs et au parc.
Mamadou Sakho, c'est tout ce qu'on souhaite au Paris Saint-Germain, donc de remporter cette Ligue des Champions. On continue sur le football et ce résultat, la finale de la Europa Conference League, c'était hier soir, et la victoire des Anglais de Chelsea face au Real Betis sur le score de 4 à 1. 1. On reste sur le football et on parle du Real Madrid avec un nouvel entraîneur, Xabi Alonso. Il a la tête plein d'espoir, on l'écoute.
C'est un jour très émouvant, un de ceux dont on se souvient toujours. Je ressens une grande responsabilité, mais c'est aussi un rêve et ça me donne de la force. Nous avons des joueurs incroyables, non seulement Kylian ou Vinicius, mais aussi beaucoup d'autres. Ce sont deux joueurs qui font les différences et qui nous apportent énormément. S'ils donnent leur maximum, l'équipe va gagner bien plus. On va prendre du temps pour discuter. Pour moi, c'est très important. Quand il y a cette communication et cette connexion, les choses fonctionnent mieux et c'est le travail que je dois accomplir.
Xabi Alonso, donc le nouvel entraîneur du Real Madrid qui prendra en charge l'équipe en ce mois de juillet. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
13h et bientôt 25 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. 13h, 35 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et on passe à Europa Voice, épisode 165 sur l'accord de libre-échange. Et vous êtes en compagnie de Christophe Mallet et de Nathanaël Bloch.
Bonjour et bienvenue dans Europa Voice. Europa Voice avec Nathanaël Bloch une nouvelle fois. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
On va parler du libre-échange et des accords de libre-échange avec l'Europe. On en est où? Ça fait un petit moment qu'on en parle. Je ne sais pas à quel épisode d'Europa Voice on en a parlé, mais ça fait un petit moment. C'est quoi le statut de cet accord de libre-échange en ce moment?
Alors, it's complicated.
J'aime bien la pause. Alors,
it's complicated. On dirait sur Facebook. L'Union européenne et l'Australie sont engagées dans des discussions. On peut parler encore d'accord, mais dans des discussions depuis la fin des années 2000 pour faciliter les échanges et le libre échange entre les deux pays. En 2018, officiellement, les négociations ont été lancés. D'ailleurs, on avait, c'est à ce moment-là, à peu près, que le podcast Europa Voice s'est lancé, qu'on avait commencé d'ailleurs à traiter de ces accords.
Avec la visite d'Emmanuel Macron en Australie.
Avec notamment cette visite d'Emmanuel Macron
J'y
en Australie.
J'y étais, j'ai même posé une question sur le terrain du Premier ministre australien. Enfin, c'est toute une autre anecdote sur cet libre-échange d'ailleurs.
Et depuis 2018, en fait, c'est effectivement compliqué. On en a une quinzaine de ce qu'on appelle de rounds de négociations entre l'Union européenne et l'Australie. Alors, ce qui se passe, juste pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, c'est qu'à chaque fois, en fait, on doit se mettre d'accord. Un accord de libre-échange, c'est un énorme tableau Excel. Et dans ce tableau Excel, on met un petit peu tout ce qui fera partie de cet accord de libre-échange et tout ce qui ne fera pas partie.
Donc, il y a du vert et il y a du rouge.
Il y a du vert, il y a du rouge et il y a du orange. Et en fait, c'est sur le orange que c'est le plus compliqué. Exemple, et ça peut être des choses qui peuvent paraître très anecdotiques, mais c'est sur les appellations d'origine contrôlées.
C'est énorme, c'est pas anecdotique. Un camembert, c'est un camembert.
Un camembert, c'est un camembert. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être sur des détails, vous avez raison, hein, Christophe, aussi petits que de la provenance géographique. Qu'est-ce qu'on appelle champagne, qu'est-ce qu'on appelle mousseux, qu'est-ce qu'on peut appeler feta, qu'est-ce qu'on peut appeler camembert, etc. Et en fait, ces rounds ont...
Dans une culture australienne qui n'est pas du tout comme ça. C'est ça,
culture australienne, on vous parle champagne alors qu'on met un mauvais sparkling à 10 dollars. Bon, ça c'est pour...
Ça c'est notre... c'est un autre sujet.
Et donc, en fait, ces accords étaient un petit peu au point mort. Et puis, il faut le rappeler aussi pour nos éditeurs d'Europa Voice, d'SBS, l'épisode des sous-marins avait effectivement mis un coup d'arrêt supplémentaire à ces discussions qui avaient déjà du mal à aboutir. Et puis, les changements aussi de... s'il y a une stabilité, ça il faut le reconnaître au niveau de l'Union européenne, puisque c'est le deuxième mandat de Van der Leyen, les mandats australiens sont beaucoup plus courts, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans de cela, c'était pas Albanese qui était le Premier ministre, il y a eu plusieurs Premiers ministres, de partis d'ailleurs opposés. Et donc on était un petit peu à un point mort. Et puis là, Albanese, face aussi, il y a un petit peu d'opportunisme de la part du Premier ministre australien, face aux difficultés de AUKUS, hein, donc des contrats de défense Australie, Angleterre, États-Unis sur ses sous-marins et sur la défense face à les difficultés, eh ben, il fait un petit peu marche arrière, Albanese, puis il revient un petit peu voir les partenaires européens. Il re-rentre par la porte de la défense. Il prend aussi prétexte, évidemment, de sa première visite papale pour aller voir von der Leyen et donc pour, d'une certaine façon, relancer les discussions de ces accords de libre-échange par la lorgnette d'un partenariat en matière de sécurité et de défense.
Au moment où l'Europe elle-même se pose elle-même ces questions de défense au sein de l'Union européenne.
Au même moment, Christophe, vous avez tout à fait raison, où l'Europe, sur les questions d'indépendance stratégique, sur les questions de l'indépendance et de l'autonomie de défense européenne, elle sait, l'Europe aussi, que le parapluie américain est en train de se refermer s'il n'est pas déjà refermé. Donc, il y a une espèce d'opportunisme de circonstance de la part des deux, mais qui finalement est le bienvenu. Et donc, ces négociations d'un accord de libre-échange semblent remises sur le tapis. Et donc, on n'est pas à l'abri de conclure un accord dans les prochains mois entre l'Union européenne et l'Australie par rapport à ces accords de libre-échange.
On sort le mousseux ou on sort le champagne au moment où ça se fait, toi et moi?
Alors, je pense qu'on sortira les deux, on fera une dégustation à l'aveugle.
Si on revient juste sur la visite d'Anthony Albanese et la rencontre avec von der Leyen, à quel point c'est important cette rencontre?
Ah, mais c'est très important parce qu'il faut aussi le préciser pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, c'est qu'on a parlé d'ailleurs dans la première partie de cette Europa Voice de l'espace Schengen et donc de la libre circulation des biens, des matériaux, des personnes. Un pays comme l'Australie doit conclure des accords de libre-échange au cas par cas. Ou, à l'inversement, si on prend l'Union européenne, doit conclure des accords au cas par cas. Et donc, il n'y a pas que l'Australie, d'ailleurs, qui est concernée.
On l'a vu, il y a le Canada aussi.
Il y a le Canada, il y a l'Inde. Il y a eu toutes les problématiques autour du Mercosur, avec notamment les questions agricoles. Donc, c'est extrêmement important, en fait, ces accords de libre-échange. Et puis, si on se place du côté australien, il ne faut pas l'oublier, hein, l'Australie, qui est un pays d'un peu plus de 25 millions d'habitants, si je ne m'abuse, peut potentiellement avoir accès à un marché de plus de, enfin d'à peu près 500 millions de consommateurs. Donc c'est un marché qui est 20 fois plus grand que le marché australien. Donc vous imaginez bien, pour les producteurs australiens de certains produits spécifiques australiens, c'est une opportunité incroyable.
Et surtout, et là il faut le jeter aussi encore une fois dans la mare, mais Donald Trump et ses tarifs accélèrent aussi le besoin d'aller vendre du vin australien en Italie, par exemple, etc., etc., etc.
Et bien, c'est exactement ça, et d'ailleurs on en a parlé dans un épisode précédent d'Europa Voice, l'isolationnisme américain est peut-être le meilleur remède pour que l'Union européenne reconsidère certaines de ses stratégies, notamment en termes d'autonomie de défense, notamment en termes de commerce, et notamment en termes d'affaires étrangères. Donc, dans un mal, ou en tout cas dans une période qui est compliquée pour l'Union européenne, parce qu'en face, elle a un partenaire américain qui n'est plus forcément aligné avec la relation historique et Lafayette et son legs, c'est pour l'Europe une opportunité d'aller voir de l'autre côté. Et puis, ne l'oublions pas, on a parlé de votre question à Emmanuel Macron en 2018. Une des premières initiatives de géopolitique mondiale d'Emmanuel Macron, c'est la stratégie Indo-Pacifique. C'est faire des nouvelles routes de la soie, des nouvelles routes de commerce, des nouvelles routes diplomatiques de Paris à Nouméa, en évitant la Chine, en passant par l'Inde et l'Australie.
Ah, c'était discuté en 2018, je m'en souviens, comme si c'était hier.
Et donc tout ça, ça s'imbrique, tout ça est lié. Et donc c'est effectivement pour Emmanuel Macron aussi une certaine façon de close the loop, comme on dit en anglais, et puis de revenir sur ce qui est pour le coup objectivisé. Une des réussites d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir remis l'Indo-Pacifique à la place que cette région mérite, avec tout ce que ça a d'opportunités stratégiques de défense, de sécurité pour la stabilité, pas seulement de la région, mais pour la stabilité du monde.
Et c'est intéressant, juste pour revenir sur les tarifs et l'accord de libre-échange, on pourrait même presque rajouter une ligne sur le CV de Donald Trump comme un des grands fondateurs de l'Europe, puisqu'il a aidé avec son isolationnisme à peut-être sortir l'Europe d'une certaine situation et d'augmenter les accords de libre-échange avec plein d'autres pays où c'était un petit peu compliqué, comme l'Australie par exemple.
Exactement, c'est donc, encore une fois, c'est un mal pour un bien. On va voir
indépendamment de son souhait. Hein,
mais... Voilà, non, mais on va voir aussi ce que l'Europe va être capable de faire pour exister face aux deux géants américains et chinois et mettre en place ces accords de libre-échange. Encore une fois, hein, ce qui a stoppé ces accords de libre-échange, c'est à la fois une non-entente sur tout un tas de sujets, mais c'est aussi, en toile de fond, cette histoire de sous-marin. Et donc, voilà, on est passé à autre chose. Le coup de couteau, le coup de poignard dans le dos, pour citer Jean-Yves Le Drian, si je ne m'abuse,
oui,
à l'époque.
Tout à fait, ouais.
Voilà, la plaie est effacée, c'est cautérisé et la France et l'Australie, l'Union européenne et l'Australie peuvent avancer.
Effacée, je ne sais pas, mais cautérisée, c'est sûr. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Il est 13h47 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, nous avons le plaisir d'avoir Salim qui est du French Comedy Club. Bonjour à vous Salim.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Et le French Comedy Club arrive à Melbourne avec 3 spectacles ce jeudi 29 mai, vendredi et samedi. Et vous commencez le jeudi avec une Trivia Night et les 2 autres soirées consacrées au stand-up. Vous serez dans un bar-restaurant, d'après ce que je comprends?
Alors effectivement, c'est plutôt une warehouse aménagée avec un bar. Un très bel endroit avec beaucoup de cachets. Et on va s'y produire tous les jeudis, vendredis et samedi soir.
Et donc, d'après ce que je comprends, c'est à South Melbourne.
Oui, exactement, tout à fait.
Alors, parlons des spectacles qui auront lieu et à quelle heure?
Nous avons le Trivia, le French Trivia, il est à 19h30. Je vous explique un petit peu ce que c'est quand même. Ouais. En l'occurrence, bon, vous devez connaître les soirées Trivia australiennes. En fait, ça a commencé tout bêtement, on y allait et ça nous manquait un petit peu il y avait des références qu'on n'avait pas. Des choses qu'on comprenait moins, des artistes qu'on connaissait pas, et on s'est dit bah autant le faire nous-mêmes. Et pour le coup, j'y ai incorporé de l'animation, c'est-à-dire que étant donné que je fais du stand-up, j'y ai incorporé beaucoup de blagues, d'interactions avec le public, de la danse même, des questions. Je fais monter également un participant à chaque manche. Il y a une question bonus où je fais monter un participant sur scène. Enfin, un participant par équipe, avec des jeux ludiques et plein de choses sympathiques. Donc au-delà d'un trivia, c'est vraiment une super soirée où on s'amuse tous ensemble.
Et il faut réserver les places pour ce jeudi soir?
Oui, tout à fait. Elles sont disponibles sur notre site internet, le frenchcomedyclub.com. Et après, pour avoir plus d'infos, voir un petit peu comment les soirées se déroulent, il y a l'Instagram, tout simplement, le French Comedy Club, où on peut voir pas mal de vidéos de ces soirées-là et en voir un peu plus.
Est-ce que les enfants peuvent accompagner leurs parents?
Alors oui, tout à fait. Sur les soirées trivia, il n'y a aucun souci pour ça. Il y a effectivement, à la fin, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'on offre des cadeaux sur chaque soirée trivia. Alors les 3 premières équipes ont un cadeau. En l'occurrence, on essaie de faire... les cadeaux sont souvent liés à des entreprises françaises. Nous avons pu collaborer avec Franck Provost, France at Home, enfin voilà, plein d'entreprises françaises à chaque fois, et essayer de promouvoir les entreprises françaises.
Et les 2 autres soirées, vendredi et samedi, consacrées au stand-up, j'imagine?
C'est ça. Donc vendredi soir et samedi soir, ça sera effectivement les soirées stand-up. Nous avons réuni les comédiens que nous avions lors de la saison numéro 1 au French Comedy Club, plus Léo Filippiti, qui sera bientôt notre représentant à Melbourne, parce qu'on veut ouvrir un comedy club à Melbourne, ça sera notre représentant. Et du coup, vendredi soir et samedi soir, effectivement, il y aura 8 comédiens et moi qui suis le présentateur, un petit peu le présentateur de ce show.
Le MC.
Le MC, exactement. Et c'est mon nom sur Instagram.
C'est une première pour la troupe de faire ce déplacement à Melbourne.
Alors oui, c'est notre premier déplacement. Et pour la petite anecdote, lorsqu'on a fait la première représentation à Sydney, c'était le 3 novembre dernier, quelques jours après, on s'est dit, évidemment sur le ton de la plaisanterie, ça serait bien de faire une tournée, d'aller dans toute l'Australie. On s'est dit ça, évidemment, on n'y croyait pas un seul instant. Et en fait, c'est 6-7 mois après, on y est. Donc, c'est extraordinaire. On est vraiment, c'est plus qu'un rêve qui se réalise. C'est là, on a même du mal à y croire. Donc, on est tous extatiques.
Et donc, d'après ce que vous dites, le French Comedy Club a été fondé en novembre de 2024. C'est ça?
Alors, le 3 novembre a été la première représentation. En amont, il a fallu évidemment travailler les sketchs. On a commencé en fait début septembre 2024.
Ouais.
Et on a travaillé pendant deux mois et demi sur les sketchs, les écritures, les réécritures, etc. Et la première représentation officielle était le 3 novembre 2024.
Et l'idée est venue de qui ?
Alors l'idée est venue de Donia, en l'occurrence, ma partenaire.
Ouais.
Excusez-moi pour le bruit. C'est une, comment dirais-je, quelque chose que je dis, que je disais justement dans la saison numéro 1. Je faisais une petite blague là-dessus. Je disais, Donia, elle a vu que j'ai toujours eu le rêve de faire du stand-up, donc elle m'a créé un comedy club, tout simplement. Voilà. Je disais pour la blague, c'est comme si tu voulais être footballeur professionnel et que ton papa il te construit un stade, tout simplement.
et donc, à part des tournées que vous effectuez, j'ai vu que vous organisez des ateliers d'impro à Sydney. Il se passe quoi dans ces workshops ?
Alors, exactement. Alors, pour le coup, c'est moi qui vais les animer. Ça commence la semaine prochaine, les ateliers d'improvisation. Le but sera de s'amuser, d'apprendre des techniques d'improvisation, d'être à l'aise en public pour s'exprimer. Évidemment, ça reste ludique, donc on est là pour s'amuser, pour rire, etc., pour créer. Mais voilà, ce serait aussi le but, c'est d'apprendre à s'exprimer de manière claire et également, comment dirais-je, avec une répartie certaine. Donc voilà, on travaille beaucoup de choses là-dedans, évidemment, avec en fond l'objectif de s'amuser et de passer un bon moment.
Absolument. Donc, c'est quand et où à Sydney ? C'est au mois de juin, vous disiez ?
Exactement. Ça commence mardi prochain et ça sera tous les mardis de juin. Donc, comment ça se passe ? Tous les mardis de juin de 19h à 21h, c'est dans le CBD à Sydney pour le coup. On en fait également à Melbourne avec Léo Filippiti qui commence également la semaine prochaine. Et donc oui, non, que disais-je ? Oui, donc ça commence mardi prochain pour 4 mardis de 19h à 21h. En fait, c'est des planches de 4 cours. Il est important quand même de faire plusieurs cours d'affilée pour pouvoir progresser. Voilà, pour qu'il y ait un vrai suivi et une progression qu'il y ait une progression tout simplement.
Et Salim, que diriez-vous aux Melbourniens qui nous écoutent pour venir vous voir ce jeudi, vendredi et samedi ?
Alors, résumé en 3 mots, on va rigoler, ça c'est clair. Ça, vous pouvez nous faire confiance, on va s'amuser, on va rigoler. Et alors écoutez, tout simplement, moi, ce que j'adore dans le Comedy Club, et ce que j'adore dans ce Comedy Club, c'est que j'appelle ça un petit peu, vous savez, on picore. C'est-à-dire, il y a plein d'artistes différents, plein de comédiens différents. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens plus jeunes, plus âgés, etc. Il y a vraiment de tout. Voilà, les âges, ça va de 25 ans à je vous dirais 45 ans, quelque chose comme ça. Il y a des hommes, des femmes, des sketchs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc déjà forcément, il y a quelque chose qui va. Il y a des sketchs qui vont forcément vous plaire. Et puis, ça fait 6-7 mois qu'on le fait, donc maintenant on a quand même de l'expérience et puis je dirais tout simplement aussi que à Sydney on est vraiment on commence à être réputé dans le sens où voilà tous les gens qui sont venus nous voir ils ont tous aimé le spectacle. On a vraiment que des retours positifs donc voilà.
Merci Salim et à bientôt.
Merci à vous, bonne journée.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et en fin d'émission, un rappel des titres de ce jeudi 29 mai. Environ 3500 personnes restent isolées le long de la côte centre-nord de la Nouvelle-Galles du Sud après les inondations malgré le retrait des eaux ces derniers jours. La chef de l'opposition fédérale, Susan Lee, a annoncé la composition de son cabinet fantôme suite à la réconciliation des partis libérales et nationales pour former à nouveau une coalition. Et puis les groupes environnementaux ont exprimé leur indignation face à l'approbation par le gouvernement de la prolongation du projet gazier controversé du géant des combustibles fossiles Woodside de 2030 à 2070.
<t'->
Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous, samedi et dimanche à 13h. Et puis pour le live, mardi prochain à 13h. Belle journée. À très bientôt sur SBS en français. D'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.